RFI, grand reportage, Laurence Adou.
Au Chili, des nourrissons ont été séparés de leur mère à la naissance pour être vendus ou donnés en adoption de manière illégale sous la dictature d'Augusto Pinochet dans les années 70-80. Aux mères, on disait le plus souvent que leur bébé était mort. Un trafic révélé en avril par un article de presse d'un centre d'investigation en ligne sur Internet. Le site chilien dévoilait deux cas liés à un curé de l'aristocratie depuis des centaines d'enfants illégalement adoptés et des mères cherchant leur enfant sont sortis de leur silence des classes sociales hautes et basses tout au long du Chili. Jusqu'ici, depuis que le scandale a éclaté, eh bien quatre familles se sont retrouvées. Les nourrissons volés du Chili. Grand reportage de Claire Martin. Claire que l'on retrouve pour en parler dans un quart d'heure. Voici son reportage.
Ce que je n'ai jamais pu voir, c'est son visage. Je n'ai connu de lui que ses pleurs, seulement ses pleurs.
Ah, ma que souillante.
Je ne sais pas si je suis née le jour où je fête mon anniversaire. Je ne sais pas si je suis née là où ma mère adoptive m'a dit que j'étais née, à l'hôpital Salvador.
Sonia et Sylvia ont en commun d'avoir été victimes du vol de nourrissons qui avait lieu sous la dictature d'Augusto Pinochet dans les années 70 et 80. Comme elles, ils sont des centaines. Constanza Del Rio a créé l'ONG Nos Buscamos, Nous nous cherchons, qui tente de réunir ces familles après leur brutale séparation. Son ONG a reçu jusqu'ici plus de 3000 témoignages.
Cela commence avant 73, bien avant le coup d'État, mais ça se massifie après le coup d'État. Cela n'a rien à voir avec la dictature en elle-même, mais avec le fait que le Chili vivait alors dans la peur.
Peur de la police, de la justice, des autorités. Les réseaux de trafic de nourrissons se multiplient. Gustavo Villarrubia est le journaliste du centre d'investigation en ligne CIPER qui a révélé les premières affaires.
Comment le scandale a-t-il éclaté? Avec l'affaire du prêtre Gerardo Joannon, que nous révélons. Il servait d'intermédiaire entre des familles riches, des quartiers chics, pour qui un bébé né avant le mariage et d'adolescents était une honte, du fait de leur tradition chrétienne ou du camp, dira-t-on. Elle cherchait alors ces prêtres ou ces gynécologues célèbres pour qu'ils leur trouvent une solution. C'était une pratique très courante dans les années 70-80, et pas seulement à Santiago, mais dans tout le pays.
Ces religieux, ces médecins donnaient l'enfant à une autre famille de la classe haute, la plupart du temps sans l'assentiment de la mère adolescente à qui on faisait croire que son enfant était décédé. Constanza Del Rio est bien au fait de l'histoire.
C'est l'histoire de ma vie. Malheureusement, ma mère ne pouvait pas avoir d'autres enfants après ma sœur. Ils sont donc entrés en contact avec le docteur Munkenberg de la clinique Santa Maria à Santiago. Au Chili, à cette époque, il n'était pas très facile d'adopter de manière légale. Mais de manière illégale, c'était très facile. Imagine-toi que mes parents sont entrés à la clinique Carolina Freire et 2 heures plus tard, ils ressortaient avec un bébé dans les bras. Ensuite, ma grand-mère adoptive a envoyé quelqu'un qui travaillait avec elle m'inscrire au registre civil d'Olmué, un tout petit village. Il ne m'a pas emmené, il n'avait pas de bébé dans les bras. Il est arrivé sans acte de naissance, avec seulement le nom complet de ma mère et de mon père et 2 témoins. Ils ont dit que j'étais née à Olmué. Mon inscription a été aussi simple que ça. Moi, aux yeux de l'État ou de n'importe quel avocat, je suis légalement la fille biologique de mes parents adoptifs.
Le père Gerardo Joannon de la Congrégation française des Sacrés-Cœurs, aujourd'hui âgé de 77 ans, serait mêlé à une dizaine d'adoptions illégales. Le gynécologue Gustavo Munkenberg, aujourd'hui décédé, à des centaines. Mais les classes hautes n'ont pas eu l'exclusivité de ces adoptions. Abusant de la crédulité de femmes pauvres, des couvents de bonnes sœurs, des sages-femmes, des assistantes sociales jouèrent eux aussi avec la vie de nourrissons. Le journaliste Gustavo Villarrubia.
J'ai eu l'opportunité d'aller parler à quelques-unes de ces personnes et elles m'ont expliqué La vie de cet enfant allait être terrible parce que c'était une femme pauvre qui n'avait pas les moyens, qui avait déjà 4 enfants. C'est ainsi qu'elle justifiait le fait de mentir à cette personne et de donner son enfant à d'autres.
Certaines recevaient de l'argent en échange. Sonia Arellano a aujourd'hui 65 ans.
En 1977,
j'ai eu ma césarienne à l'hôpital San Borja. Après que mon bébé soit sorti, ils l'ont emporté. Il pleurait. J'ai demandé où ils l'emmenaient. Et ils m'ont répondu qu'ils allaient le peser, le mesurer. Les 3 jours ont passé. Moi, je réclamais mon fils. Mais jamais personne n'est venu me voir. Ni l'infirmière, ni le docteur. Jusqu'au 31, où mon mari est venu me dire qu'il était mort. Je ne l'ai connu ni vivant, ni mort.
Elle ne reçut aucune explication, ni dossier médical, ni le corps de son bébé.
J'ai beaucoup pleuré. Je voyais des photos de nourrissons et je les collais sur le mur. Et je me disais, il ressemble peut-être à lui ou à lui. J'ai passé beaucoup de temps sans pouvoir sortir de chez moi.
Quand sa fille Jessica Rossa lui a fait lire le reportage de Sipper en avril dernier, elle a cru lire sa propre histoire. Elle a eu la même sage-femme qu'une des victimes de l'article. Elle a compris alors que son fils avait sûrement été donné en adoption.
Mon mari travaillait en hôpital et il avait beaucoup d'amitié.
Mon mari travaillait à l'hôpital et il avait beaucoup d'amis dans les hôpitaux. Je crois qu'il a joué un rôle dans l'adoption. Comme j'en avais déjà 4 et que notre situation financière n'était pas bonne, parce qu'il a signé un papier dont il ne m'a même pas révélé le contenu. Les doutes sont venus quand on a su qu'à la même époque, ses parents avaient eu une maison neuve, alors qu'ils n'avaient même pas d'argent pour s'offrir une nouvelle maison. Moi, je n'avais pas fait le rapprochement. C'est ma fille qui m'a ouvert les yeux.
Sino que mi hija me dijo mamá, me dijo ahí está todo.
O sea, siempre yo sospechaba de cosas y le preguntaba a mi mamá.
Je me suis toujours douté de quelque chose. Du coup, je posais des questions à ma mère. Mais ma mère est très naïve. Je me rends compte qu'à cette époque, les femmes étaient très vulnérables. Elles ne pouvaient pas se méfier d'un médecin, d'un curé, d'une bonne sœur ou d'une assistante sociale. Elles avaient une confiance aveugle. Et comme mon père avait en plus 10 ans de plus qu'elle, elle l'a cru. Elle a cru que son fils était mort.
Marta Navarrete a aujourd'hui 77 ans. Sa fille, qu'elle voulait appeler Maria Margarita, serait aujourd'hui âgée de 41 ans.
Je me souviens, c'était un vendredi. J'avais accouché à terme, normalement. J'ai le certificat de naissance pour le prouver. C'était une très jeune sage-femme qui m'a accouchée. Et elle m'a dit, en saisissant mon bébé, « Une petite fille, qu'est-ce qu'elle est belle !» Elle n'arrêtait pas de pleurer. « Oh, qu'elle a de bons poumons !» a-t-elle dit. Et puis elle l'a pesée, j'ai vu mon bébé. Ils l'ont enveloppé dans un drap et puis, depuis, je ne l'ai plus revue, plus jamais.
Nada más.
Ils m'ont ramené dans la chambre et moi, je réclamais mon bébé. Je disais, « Mademoiselle, mon enfant !» Et on me répondait, « Elle arrive bientôt. » J'ai attendu en vain toute la journée. C'est alors qu'on m'a dit que ma fille avait un problème et qu'on l'avait emmenée au 2e étage. « Mais on vous tient au courant, m'a-t-on dit. » Samedi, aucune nouvelle. Le dimanche, mon mari est venu me voir, c'était le jour des visites. Il est allé au 2e étage et là, on lui a répondu qu'il fallait qu'il aille dans la salle des fœtus, dans une pièce où étaient entreposés des fœtus dans des pots. Mais moi, je lui ai dit, mon bébé n'était pas un fœtus. J'ai eu de la fièvre pendant plusieurs jours parce que je ne pouvais pas croire que mon bébé était un fœtus. Comment est-ce qu'il pouvait me dire cela? Mais lui n'a pas contesté, je ne sais pas pourquoi. Au 3e ou 4e jour, je suis repartie de l'hôpital avec ma valise, sans mon bébé.
Je sors avec ma valise, sans mon guagua. Cecilia, Jorge, Patricio Antonio, Ricardo Arturo, la Patricia.
Marta avait déjà 7 enfants. Elle soupçonne que c'est pour cette raison qu'on lui a volé sa fille. Elle n'était pas la seule à réclamer.
Dans cette chambre de l'hôpital Salvador, il y avait 3 autres mamans qui n'avaient pas non plus de nouvelles de leur bébé.
Norma Madariaga a toujours écouté sa mère dire qu'on lui avait volé sa fille.
Comme nous ne comprenons rien, moi je comprends rien à la paperasse, à la bureaucratie, par ignorance en fait. Alors nous n'avons pas déposé plainte avant, à l'image de mon père qui est resté les bras croisés, quand à l'époque il aurait pu dire quelque chose, mais il est resté muet et n'a rien fait.
Depuis que la vérité a éclaté au grand jour, la petite fille de Martha cherche activement à travers les réseaux sociaux. Esther Herrera a 33 ans, elle a cofondé le blog et la page Facebook Enfants et Mères du Silence, Hijos y Madres del Silencio.
De alguna manera, las redes sociales se convirtieron en el canal.
D'une certaine manière, les réseaux sociaux sont devenus le principal moyen pour les gens de connaître les recherches que nous menons. Ils ont permis d'aider à diffuser, grâce au partage sur Facebook ou sur Twitter, toutes nos histoires pour que chaque fois, plus de gens sachent ce qui se passe.
Ce qui était vécu comme un drame silencieux et unique est devenu collectif et international. Beaucoup d'enfants ont été vendus à des couples européens et américains. Sylvia Rothenberg fait le lien avec ses enfants depuis l'Allemagne où elle vit.
Quand j'avais 21 ans, j'ai découvert que j'avais été adoptée. J'ai toujours pensé que ma maman m'avait abandonnée de son plein gré. Mais maintenant que ce scandale a éclaté, il est possible que j'ai été placée en adoption pour d'autres raisons. Il est même possible que ma maman me cherche. Je ne vais donc pas me cacher, je vais chercher aussi et je me sens prête à tout affronter.
Après cette interview et grâce à l'enquête d'un journaliste, Sylvia a découvert que sa mère biologique s'était suicidée en 2000. Elle s'est aussi découvert des frères et sœurs. Arturo Fele et son épouse Constanza del Rio ont créé le site nousnouscherchons.org, Nos Buscamos, qui rassemble tous ceux qui cherchent.
La ONG Nos Buscamos est basiquement...
L'ONG Nos Buscamos est dans le fond une passerelle entre deux volontés de se retrouver. La seule chose que nous pouvons garantir, c'est que si des deux côtés, ces deux volontés veulent se retrouver dans notre base de données à travers notre page internet, elles le pourront grâce à tous les moyens que nous mettrons à leur disposition. Si d'un côté la mère revient mais pas l'enfant, ou si d'un autre côté le fils revient mais pas les parents, ils ne se retrouveront pas.
Ellos no se van a reencontrar.
Plus de 3000 personnes se sont déjà inscrites.
Au début, on croyait qu'il serait facile de croiser les informations grâce aux dates d'anniversaire. Mais nous nous sommes rendus compte que certaines personnes avaient été inscrites au registre civil 5 ou 6 ans après leur naissance et que leur mois de naissance était différent d'un, deux, trois ou quatre mois, justement pour éviter qu'elles puissent être retrouvées. La date n'est donc pas certaine, le lieu de naissance non plus. Et au final, malheureusement, pratiquement toute l'information est faussée. La seule information qui serait absolument sûre dans tout ça, c'est une banque ADN où toutes les victimes pourraient être réunies et où les résultats seraient 100% sûrs.
L'ONG a choisi l'entreprise américaine 23andMe, spécialiste de l'analyse ADN. Pour distribuer gratuitement les kits de test, elle appelle aux dons. L'État chilien, quant à lui, a saisi la justice à travers son organisme de protection des mineurs, le Sename, représentant plus de 60 victimes.
L'État nous a offert une banque ADN, mais à la condition de déposer plainte, ce qui veut dire pour la justice, appeler à déclarer tous les parents. Juste en déclaration, ça pourrait prendre 2, 3, 4 ou 5 ans. En plus, si on passe par un procès, les premiers à déclarer vont être les parents adoptifs. Et ça, les enfants adoptés ne le veulent pas. Dans le fond, ce sont leurs parents, ce sont ceux qui leur ont changé leur couche, ceux qui les ont soignés quand ils avaient de la fièvre, ceux qui les ont amenés à l'hôtel quand ils se sont mariés et qui ont été généralement trompés eux aussi. Dans tous les cas que je connais, on leur a dit que la mère ne voulait pas du bébé.
La justice pourrait décider de poursuivre les parents adoptifs pour séquestration permanente, une violation des droits de l'homme imprescriptible qui pourrait leur coûter la prison. Elle enquête aussi les délits d'associations illicites, faux et usage de faux.
C'est une pratique qui, pour fonctionner, avait besoin que le système judiciaire soit d'accord, que les juges, les avocats, le système médical, les docteurs, les sages-femmes, les infirmiers, les cliniques privées, les hôpitaux publics soient d'accord.
« La plupart des victimes ne cherchent pas de coupables, mais des réponses et pourquoi pas des retrouvailles.
Yo quiero una respuesta. Solo una respuesta.
Je veux une réponse, seulement une réponse. Est-ce que mon fils a été donné à l'adoption? Et à qui? Et si mon fils est vivant et qu'il veut me connaître, je suis là.
Ahí estoy.
Les nourrissons volés du Chili, un grand reportage de Claire Martin, réalisation Marc Minatel.
Claire Martin, bonjour.
Bonjour Laurent.
À la fin de votre reportage, on a envie de savoir si ces familles vont pouvoir se retrouver en dépit de toutes les difficultés que vous décrivez.
Alors jusqu'ici, on compte les familles qui se sont retrouvées sur les doigts d'une main. J'ai parlé de Sylvia dans mon reportage. Il y a aussi une autre personne qui a retrouvé sa mère grâce à la presse. Sa photo en grand dans une revue féminine a attiré l'œil de la sœur de sa mère biologique dans un salon de coiffure. On comprend donc là toute l'importance des médias et des réseaux sociaux, car les pistes de recherche en fait sont rares. Les dates de naissance, les lieux de naissance sont souvent faux et souvent les parents adoptifs n'ont que très peu d'informations, car en fait à l'époque ils ont préféré ne pas poser de questions, souvent trop contents d'avoir enfin le bébé qu'ils attendaient tant.
Alors pour les mères, pour toutes ces mamans, on imagine que c'est plus facile.
Les mères ou les pères, en général, savent qui était leur gynécologue ou leur sage-femme. Mais beaucoup sont morts et ils ont enterré leur secret avec eux parce que, au niveau des dossiers médicaux, aussi bien dans les hôpitaux publics que dans les cliniques privées, tout ça a disparu mystérieusement. Et quand ces gens sont vivants, ils refusent de parler. Pour ça, je pense que la justice va être d'une très grande aide. Elle permet aussi, d'ailleurs, à beaucoup de mères de relever la tête, comme disait l'une d'entre elles, « Maintenant, on ne me prend plus pour une folle, on m'écoute ». La mise en commun des informations entre les victimes aide aussi à faire avancer les recherches. Jusqu'au scandale, il faut bien comprendre que quand les gens cherchaient, ils cherchaient seuls. Ils pensaient d'ailleurs être les seuls à qui c'était arrivé, un cas unique. Aujourd'hui, beaucoup se serrent les coudes et ça leur permet aussi de tenir bon moralement, de garder espoir. Car chercher tous les jours, sans savoir si la personne qu'on cherche a envie d'être trouvée, sans savoir si elle est encore vivante, sans savoir qui on va rencontrer finalement, quelle est la vérité, c'est vraiment dur.
Et on imagine en tout cas aussi que la banque ADN que vous évoquez dans votre grand reportage pourra aider.
Oui, c'est en tous les cas l'espoir de l'ONG Nos Buscamos et du groupe Hijos y Madres del Silencio. Si toutes les victimes qui le veulent envoient leur test de salive à 23andMe, le groupe américain trouvera sûrement des correspondances et cela prendra beaucoup moins de temps de se retrouver que d'attendre par exemple que la justice donne son verdict. Cela évitera aussi aux gens de croire d'ailleurs qu'ils se sont retrouvés quand ce n'est pas le cas.
À propos de justice, vous disiez aussi que les parents adoptifs pourraient risquer la prison ferme.
Oui, tout à fait. Le juge Mario Carossa, en charge du dossier, pourrait les poursuivre pour séquestration permanente. C'est un crime imprescriptible. C'est d'ailleurs pour cela qu'aujourd'hui, beaucoup de familles préfèrent ne pas révéler à leur enfant qu'il a été adopté. De la même manière, beaucoup d'enfants adoptés préfèrent ne pas chercher ou ne pas se faire connaître pour éviter de criminaliser leurs parents adoptifs. La justice va donc sûrement ouvrir des portes, mais elle en ferme aussi.
Ce sera le mot de la fin. Un grand reportage à réécouter sur RFI.fr dans son intégralité. Claire Martin, merci beaucoup. Bonne journée.
Merci à vous Laurent, à bientôt.
Jour, Accent d'Europe vous propose de...